50 ans, c'est pas rien 50 ans. 50 ans de l'ESO. Hein, l'ESO, c'est quoi? C'est European Southern Observatory. Voilà. 50 ans de l'ESO, c'est-à-dire on se ramène en 1962. 1962, c'est la date de la signature d'une convention par laquelle on décide, les pays européens décident de créer un observatoire dans l'hémisphère sud. C'est pour ça que ça s'appelle European Southern Observatory. Donc c'est au Chili qu'on décide de créer un observatoire européen. Alors, 50 ans de recherche, Eric Mselem, que je remplace, parce que je parle en son nom, est le responsable du département scientifique de l'ESO, dont les quartiers généraux se trouvent en Allemagne, à Garching, qui est dans la banlieue de Munich. Voilà. Alors, c'est pas rien, hein, cet observatoire, l'ESO, ces observatoires, comme vous le verrez, nous ont fourni des images, des théories, des instruments. Et c'est vrai qu'en une heure, je vais avoir beaucoup de mal à résumer. Il faudrait des heures et d'ailleurs des sessions entières de discussion pour parler de cet événement. Cet événement, d'ailleurs, a été célébré toute l'année dans tous les pays membres et même ailleurs. Et donc, c'est pour ça que j'avais voulu que nous aussi, nous puissions partager ce qu'a été l'ESO. Alors aujourd'hui, je vais vous parler quand même de l'ESO en quelques mots. J'ai un petit peu adapté. Hein. Je remercie Eric Mselem, bien sûr, qui n'est pas venu vraiment pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a donné ça m'a évité d'avoir à faire cette préparation en si peu de temps. Je l'ai un peu adapté parce qu'on peut pas, c'est pas du prêt-à-porter. On a besoin de faire ça. On le fait à peu près à sa mesure, mais c'est largement à 95%. J'utilise son matériel. Donc, on parle de l'ESO aujourd'hui. Je vais vous montrer rapidement quels ont été les scientifiques, les résultats obtenus par l'ESO, et comment l'ESO s'est constitué petit à petit, une sorte de revue historique de ce qu'était l'ESO, de ce qu'a été l'ESO, de ce qu'est l'ESO, et quel sera son futur, et ensuite, on conclura là-dessus. Alors, donc je vous ai dit, c'est European Southern Observatory, c'est une organisation intergouvernementale qui est encadré par des traités bien précis. Vous verrez d'ailleurs que parfois ça a des avantages, parfois des inconvénients. Et ça a été fondé en 1962, 5 pays seulement. Aujourd'hui, il y en a, je crois, 13. Hein, on verra tout à l'heure. Je crois 13 pays. Non, 15 pays membres. Mais à l'époque, il y en avait 5, dont la France. Et c'était les pays pionniers ont été la France et l'Allemagne. C'était les deux gros pays qui, d'ailleurs, à eux seuls, avait 33% des coûts et du temps télescope, et les autres pays plus petits se partageaient le reste. Il y avait donc la Suède, la Belgique, et puis on vous verra tout à l'heure, je crois que c'était la Suède, la Belgique et Suède, Belgique et Hollande. Voilà. Aujourd'hui, il y a 15 États membres, il en rentre toujours. Le dernier à entrer étant le Brésil, qui n'est pas vraiment européen, mais vous voyez que c'est une organisation qui s'est largement ouverte. Donc aujourd'hui, le quartier général est à Munich, ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a un bureau, évidemment, à Santiago du Chili. Pourquoi ? Parce que les observatoires sont au Chili même. Il y a maintenant 3 observatoires, 2 observatoires qui travaillent essentiellement dans l'optique et dans l'infrarouge. L'un se situe à La Silla, ça veut dire la chaise, l'autre à Paranal, et enfin, un dernier observatoire qui est déjà opérationnel, même s'il ne fonctionne pas à plein. Il se situe dans les Andes, pas très loin de San Pedro de Atacama, qui est au nord du Chili, pas très loin non plus d'endroit où se trouve Paranal. C'est à Chanantor, à plus de 5000 mètres d'altitude. Et c'est là qu'on installe cette batterie de télescopes, de radiotélescopes. Là, on fonctionne dans un autre domaine, même dans le submillimétrique. Alors, je ne sais pas si l'observatoire devrait dire ça, mais je crois que ce n'est pas faux, que c'est un des observatoires les plus productifs du monde. C'est normal, on a concentré tous nos efforts dans ces mêmes lieux, et puis ça devient quand même, il y a quand même une masse critique qui est maintenant importante. Et du point de vue européen, on pourrait même dire que cette organisation qui est astronomique, elle est quand même extrêmement avancée par rapport à tout autre type de science, hein, puisque, et même en ce qui concerne l'astronomie, donc ça peut se comparer au CERN, mais en ce qui concerne l'astronomie, c'est à peu près un tiers des astronomes de la planète qui sont regroupés là. Alors c'est intéressant de situer géographiquement. Nous sommes en France là-haut. Vous avez les eaux donc qui est à, en Allemagne près de Munich et les observatoires sont situés, vous voyez, sur dans l'hémisphère sud à Paranal. Vous voyez, par rapport à Santiago, c'est donc au nord de Santiago, mais c'est quand même dans l'hémisphère sud par rapport à l'équateur. Alors pour être plus précis, je vais vous les présenter tels qu'ils sont aujourd'hui. Hein, voilà une carte qui montre bien les choses en état. Le Chili est un pays tout à fait singulier, hein, puisque c'est un pays qui s'étend, qui est tout à fait filiforme, qui a à peu près 6000 km nord au sud, qui s'étend, qui a les pieds dans les glaces, en bas, là, au sud. Les glaciers viennent se perdre dans la mer ici, c'est absolument saisissant. Alors qu'au nord, vous êtes dans un désert absolu, où il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse. Et ça, c'est le même pays. De plus, ce pays a à peu près une largeur de l'ordre de 150, 300, peut-être 200 km au plus, au maximum de largeur, ici à peu près là. Hein. Et je vous dis, il y a à peu près 6000 km. Donc, c'est, du point de vue logistique, c'est un pays compliqué. Ça peut même permettre d'expliquer beaucoup de choses, même politiquement, sur l'histoire du Chili, sur ses invasions, sa protection, le fait que c'est un pays relativement insulaire, puisqu'il est séparé, de l'Atlantique, puisqu'il y a les Andes qui culminent à presque 7000 mètres d'altitude, et puis il y a le Pacifique de l'autre côté. J'aime bien dire qu'on a les pieds qui trempent dans le Pacifique, et on a le dos adossé aux Andes. C'est à peu près ça, comme ça qu'on peut se le représenter. Maintenant, si on regarde un petit peu plus près, par rapport à Santiago, qui est la capitale du Chili, là, eh bien, La Serena... C'est une ville importante. Et les villes importantes, c'est Valparaiso, une ville maritime bien connue. Hein, même des chansons qui célèbrent cette ville-là. La Serena, la Sereine, hein, une ville effectivement de villégiature, une ville très agréable. Et un petit peu plus loin, à quelques 200 km, eh bien, dans les Andes, en fait, au début de ce que l'on appelle le désert d'Atacama, qui s'étend à partir de La Serena au nord ici, jusqu'au bout, là, jusqu'à la frontière bolivienne, c'est un grand désert, eh bien, vous avez la CIA. C'est là qu'on a installé le premier observatoire. Et maintenant, on a construit depuis 1998, enfin, on fait fonctionner depuis 1998, vous avez Paranal, qui est notre fleuron, hein, en ce qui concerne l'optique, et à Chanantor, vous voyez, là, on est vraiment dans la cordillère, on est beaucoup plus haut, parce que Paranal et La Silla sont dans la pré-cordillère. Vous avez des altitudes de l'ordre de 2400-2600 mètres, hein, alors que Chanantor est à 5000 mètres d'altitude. C'est tout à fait différent. Et c'est nécessaire aussi pour avoir une meilleure qualité, une absence de vapeur d'eau absolue, surtout quand on travaille en submillimétrique. Et Amazon, qui est là juste à côté, sera le futur site du télescope de 39 mètres qui va être opérationnel dans les années 2020. Voilà le programme. Alors la CIA, ben, c'était le premier. Le tout premier, voilà, tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Vous avez le télescope de 3,60 m, vous voyez à peu près la position, qui est au sommet d'une... vous voyez, ça ressemble à une chaise un petit peu, hein, avec un, voilà, un dossier, c'est pour ça. Et là, tous les autres télescopes se situent un petit peu plus en contrebas. Alors, ça, c'est une vue d'avion. On revoit, d'ailleurs, le télescope de 1,60 m qui est là. La route qui vient d'en bas et qui monte ici. Hein, en bas, vous avez la Panaméricaine qui passe ici. La mer se trouve de ce côté-là. Les Andes se trouvent plutôt de ce côté-là. Hein, voilà. Et là, vous avez toutes ces... Moi, je me souviens, quand je suis arrivé pour la première fois au Chili, en 1973, une époque... difficile pour le Chili, puisque le coup d'État de Gustavo Pinochet a eu lieu en 1973, le 11 septembre. Je suis arrivé personnellement le 26 octobre. Il n'y avait presque rien. Il y avait ces deux petits télescopes-là de 50 cm. Il y avait ce télescope ici de 1,52 m de diamètre. Je parle toujours du diamètre des télescopes, hein, des diamètres des miroirs, bien sûr, pas de la taille du télescope. Là, vous aviez un télescope de 1 mètre. Et puis, il y avait celui-là, qui était le télescope de Schmidt. Vous savez qu'un télescope de Schmidt est un télescope à grand champ destiné à prendre des plaques importantes. Et c'est grâce à ces télescopes-là que on a pu cartographier complètement, de manière photographique et maintenant même numérique, l'ensemble du ciel. C'est tout ce qui existait à l'époque. C'était déjà pas mal, mais on était loin de rivaliser, évidemment, avec les grands observatoires qui existaient à l'époque, surtout aux États-Unis, qui avaient disposé déjà d'un télescope de 5 mètres de diamètre au Mont Paloma. Mais c'était le début. C'était le début et c'était en 1973, ce que je dis, 74. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que des télescopes de taille moyenne. Allez, quand je vous parle de 73, il n'y avait même pas de 3,60 m, mais le télescope de 3,60 m qui est là a été mis en service en 1986. C'était un grand télescope. Il faisait partie de la famille des télescopes de 4 mètres. Il y avait dans le monde des télescopes de la taille des 4 mètres, 3,60 m, 4 mètres, 5 mètres. C'était les grands télescopes. Maintenant, ce sont des télescopes qui sont devenus des télescopes de taille moyenne. Il existe encore, il fonctionne encore. C'est un grand découvreur d'exoplanètes, en particulier à cause de son spectrographe ARPS, qui est un spectrographe entièrement dédié, très stable, à grande résolution, et qui permet de détecter le mouvement très léger des étoiles perturbées par l'existence, la présence éventuelle d'une planète ou d'un système de planètes. Et puis, il y a d'autres télescopes, celui-ci, le NTT, qu'on voit sur l'image qui est à peu près là, je vous reparlerai tout à l'heure, qui est équipé d'instruments très performants, un télescope de 2,2 m qui est en partenariat maintenant avec le Max Planck Institute de Garching, qui a aussi des instruments qui font des choses intéressantes, et puis des tout petits télescopes, mais les petits télescopes ne sont plus, comme on dit, assurés, entretenus par les eaux, ils le sont de manière externe. Il y a d'autres pays qui s'y intéressent, même éventuellement des amateurs, et qui gère ces petits télescopes. Voilà pour ce télescope. Maintenant, vous avez Paranal. Alors, Paranal, c'est toujours le fleuron. Attends, on y a même tourné un film, vous savez, Quantum of Solace, le film un des derniers films de James Bond. Oui. Si vous avez vu ce film, il y a une partie du film qui se passe non pas dans les télescopes, mais ce qui est au premier plan et qui est l'endroit de résidence où, à l'intérieur, vous avez un bâtiment à l'intérieur où on peut se relaxer, se reposer, dormir, etc. Bon, c'est un endroit assez futuriste, c'est pour ça que cet endroit a été choisi pour tourner une séquence de Quantum of Solace. Là, vous avez 4 télescopes et leur diamètre est de 8,20 m chacun. Donc, 4 télescopes de 8,20 m, ce n'est pas rien du tout. Voilà à quoi ressemblent les 4 télescopes. Ils sont identiques. C'était non seulement pour minimiser les coûts, mais aussi pour avoir une meilleure stabilité et une meilleure fonctionnalité de l'ensemble quand l'ensemble travaille simultanément. Donc c'est absolument magnifique comme instrument, parce que vous pouvez à la fois utiliser les télescopes indépendamment, vous pouvez aussi les coupler pour augmenter la puissance donc de lumière reçue. Voilà les 4 télescopes, ça c'est un schéma, mais c'est pour vous dire que ces 4 télescopes ne sont pas uniques, c'est-à-dire qu'il y a aussi, ils sont dotés de petits télescopes auxiliaires que l'on peut déplacer, vous voyez, le long des espaces grisés, et on peut faire ce qu'on appelle l'interférométrie. L'interférométrie permet d'avoir une bien meilleure résolution qu'un télescope unique, puisque la résolution est dictée par la distance occupée, la distance maximum occupé par les miroirs, même si entre les télescopes il n'y a pas de miroir, c'est quand même la distance entre ces télescopes qui va donner la résolution spatiale obtenue. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'interférométrie, en faisant varier ces distances, et on arrive comme ça à explorer ce qu'on appelle l'espace des phases d'un objet astronomique étendu. Et enfin, le télescope submillimétrique, vous voyez, ça s'est passé là, ça se passe là, un plateau à 5000 mètres d'altitude. Je pouvais apprécier la solitude, la tendresse de ce lieu, le temps. Hein, c'est un endroit où on sent le temps. Hein, vous savez qu'il y a un livre magnifique que je vous recommande de Sylvain Tesson, qui est le fils de Philippe Tesson, qui a obtenu le prix Médicis l'année dernière. Il a passé six mois, en Sibérie, dans une cabane. Son livre s'appelle « Dans les forêts de Sibérie ». Il y a des gens qui l'ont lu, ce livre-là. C'est étonnant, parce qu'il a tenu son journal, et à un moment, il dit, ça m'a fait penser évidemment à ce que nous faisons quand nous travaillons dans des endroits comme cela, on ressent les mêmes choses, et il dit finalement, il y a les puissants sont ceux qui s'approprient l'espace. Ça, c'est la puissance. Et puis, en fait, ceux qui possèdent le temps, ce sont ceux qui ont la vraie liberté. La liberté, c'est de disposer du temps, alors que la puissance, c'est de disposer de l'espace. Et il médite, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, c'est assez extraordinaire. Je vous conseille la lecture de cet ouvrage, parce que ça rappelle, dans le fond, ce serait bien qu'un astronome fasse à peu près la même chose pour parler de ce qu'est observer, de se retrouver dans ces lieux absolument extraordinaires, où on entend le vent qui parfois souffle à une vitesse telle qu'on entend il fait chanter le rebord des coupoles, on entend un bruit tout à fait particulier. Et puis il y a le tic-tac des horloges sidérales, il y a la nuit qui défile, il y a vraiment quelque chose de magique dans ces lieux-là. Même si aujourd'hui, comme vous le verrez, notre manière d'observer n'est plus la même, puisqu'on est dans des salles éclairées devant des écrans de télévision et qu'on est assez loin même des télescopes. Il reste quand même le lieu. Vous avez des volcans, hein, ce sont des volcans qui sont à peu près, celui-là est à peu près à 6000 mètres d'altitude. Là, on est à 5000, peut-être même un peu plus ici. Et c'est là qu'a été choisi le lieu où on a installé les télescopes. Donc ALMA, ça veut dire l'âme, c'est le plus grand interféromètre radio millimétrique qui va travailler dans le domaine millimétrique également, submillimétrique surtout également. Il y a 54 antennes de 12 mètres prévues et 12 de 7 mètres qui sont plus compactes, ce sont les Japonais qui gèrent ça. Vous voyez que c'est déjà un partenariat complexe. Vous vous rendez compte que l'ESO a été conçu parce qu'on se rendait compte qu'au niveau de chaque pays de l'Europe, on ne pouvait plus rivaliser avec les grands projets, on ne pouvait plus mener à bout un seul grand projet tout seul. Et maintenant, même l'Europe se sent incapable, et d'ailleurs les États-Unis non plus, se sentent incapables de mener des projets comme cela entièrement et financièrement tout seul. Donc on est obligé de trouver des partenaires. C'est ce que l'on fait, ce n'est pas désagréable d'ailleurs, on apprend à se connaître. Donc il y aura en tout 66 antennes, 54 de 12 et 12 de 7, avec une base maximum de 14 km. Donc qu'est-ce que ça veut dire une base maximum de 14 km? Ça veut dire que la résolution spatiale est dictée par ces 14 km. Idéalement, ça serait bien d'avoir une antenne de 14 km de diamètre, mais bon, on ne sait pas le faire. Mais par contre, vous perdez donc en sensibilité, parce que bon, on a beaucoup moins de... On reçoit moins de signal, mais au niveau de la résolution, pourvu que vous soyez capable de faire interférer les signaux en provenance de ces antennes éloignées, eh bien vous avez la résolution nominale équivalente à un télescope de radio, télescope radio de 14 km de base. Voilà. Alors ça a commencé par un seul, on l'avait mis là, il s'appelait Apex. Et puis, aujourd'hui, eh bien, on a continué, on a monté ces télescopes, ces antennes. C'est un vrai travail, c'est long, c'est difficile. Des machines spéciales, ça bloque la route, ça bloque la panaméricaine, qui est la route qui va du nord au sud. Il y a une seule nationale, hein, nord-sud du Chili. Quand ce camion est là, les gens attendent des heures derrière, ça se déplace très lentement. Voilà, et voilà ALMA. C'est pas terminé, hein. C'est pas terminé, je le montrerai tout à l'heure en détail, mais l'inauguration officielle aura lieu en mars prochain. On aura les 66 miroirs. Alors ça, c'est avec ça, on peut travailler quand même. Hein. Alors ça s'est pas fait en un jour, mais il y a eu des découvertes. Peut-être la plus spectaculaire, je pense que l'ordre est à peu près correspond peut-être à oui à la fascination que ces résultats ont pu avoir sur le public et même sur les scientifiques. Les étoiles qui orbitent autour du trou noir du centre de la Voie lactée, hein, qui inquiètent. Maintenant qu'on a trouvé un trou noir, il y a des gens pour dire attention, ça va être la fin du monde le 21 décembre. La mauvaise utilisation des résultats scientifiques. Enfin bon. L'accélération de l'expansion de l'univers, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une découverte de l'ESO, mais ça fait partie des. Ou tout au moins. Il faudrait mieux dire que l'ESO a contribué à cette découverte-là, mais ce n'est pas une découverte qui s'est faite uniquement à l'ESO. D'avoir découvert l'accélération d'expansion de l'univers par l'observation des fameuses supernovas, vous savez, qu'on a découvert beaucoup plus éloignées que ce qui était attendu, en principe, en examinant leur spectre. Donc on en a déduit que l'univers s'était dilaté beaucoup plus que ce que l'on pensait. Par conséquent, il y avait une accélération qui emballait l'univers aujourd'hui, et c'est cette accélération qui est produite par l'existence d'une énergie noire. Ensuite, la première image d'une planète en dehors du système solaire, oui. Les sursauts gamma, le lien entre les supernovas et les étoiles à neutrons, les sursauts gamma ont pu être mieux compris. C'est pas vraiment une découverte. Les sursauts gamma ne peuvent pas être découverts par des télescopes comme ça. Mais comprendre ce que c'est, oui, c'est certainement les eaux qui a fait avancer. Une mesure indépendante de la température cosmique. Vous savez que la température de l'univers depuis la fin du Big Bang est de 2,76 ou 13, je ne me rappelle jamais. 60, vous savez mieux que moi, j'espère. 72, bon. Non. Degré K, c'est très, 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 très faible comme température, mais l'univers, il y a quelques milliards d'années, était évidemment plus chaud, hein, puisque l'univers se refroidit au fur et à mesure qu'il continue l'expansion. Eh bien, en observant des quasars et en observant effectivement certaines raies spectrales à l'intérieur du spectre des quasars, on peut mesurer la température parce que l'intensité des raies en absorption peut dépendre de la température du milieu intergalactique à ce moment-là. Et c'est quelqu'un d'observatoire de l'Institut d'astrophysique de Paris, Patrick Petitjean, qui a mené à bien cette splendide observation, qui a donc mesuré. C'est très important parce que c'est une mesure qui est indépendante des mesures radio. C'est par une autre technique qui n'a rien à voir que l'on mesure cette température-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime en science, c'est ne pas avoir une seule mesure expliquée par une théorie, mais plusieurs mesures indépendantes qui confortent une même théorie. Ensuite, mesure de la plus vieille étoile de la Voie lactée, flash du trou noir central de la Voie lactée. On l'a vu qu'il y a des choses qui se passent autour de ce trou noir. Et ça, c'est parce qu'il y a un gaz qui tombe dessus. Le trou noir attire des étoiles, mais aussi du gaz. Et donc, vous avez par moments des flashs importants. Ça a été mesuré directement vu à l'ESO. Mesure directe d'un spectre d'une exoplanète et de son atmosphère. Ça a été fait par des personnes de l'Institut d'astrophysique. Le système solaire le plus riche en planètes. On trouve d'autres systèmes solaires, évidemment, des exoplanètes. On en a trouvé un qui est riche en planètes. Je ne dirais pas que pour moi, ce n'est pas une importante découverte, mais enfin bon. Et le mouvement des étoiles dans notre Voie lactée. Voilà. Alors, on va détailler. Le trou noir central de la galaxie, ça, c'est certainement été une des plus belles découvertes de, voilà, le centre de la galaxie. Là, bon, il y a un trou noir là-dedans. Vous allez me dire, ah bon, où ça? D'abord, il faut que je vous fasse remarquer que cette photo est une photo infrarouge colorisée, hein, parce qu'on ne peut pas aller au centre de la galaxie. Évidemment, c'est complètement obscurci par de la poussière. Mais quand on regarde un petit peu près dans l'infrarouge et avec une technique tout à fait particulière qui s'appelle l'optique adaptative, qui permet de s'affranchir de la turbulence atmosphérique, eh bien, les images sont évidemment à peu près les mêmes que celles que l'on aurait si on se hissait au-dessus de l'atmosphère. Et là, on obtient une résolution tellement bonne qu'on peut voir, parce que là, évidemment, on s'approche du trou noir, parce qu'on est à quelques secondes, des dixièmes de seconde autour du trou noir, on peut faire cela, et voilà ce que l'on obtient dans ce cas-là. J'espère que ça a marché. Ça devrait marcher. Ça a marché quand j'étais au bureau. Voilà, merci. Et on voit, au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, on voit les étoiles. Vous voyez, c'est un montage, évidemment, en accéléré. On voit que ces étoiles semblent tourner autour d'un centre obscur qui est le. Alors, ça ne se voit pas comme ça. Il faut reconstituer les mouvements. Quand on les reconstitue, ce qui a été fait ici, année après, c'est sur 10 ans hein, à peu près qu'on fait ce travail, vous voyez. On suit une étoile, par exemple, et bien on voit que sa position, l'étoile S2, hein, orbite autour d'un centre. Vous voyez, et on a tout ici. Hein. On a la vitesse, puisqu'on sait à quel moment exactement on fait la mesure. On sait qu'on est au centre galactique, donc on connaît la distance. Donc on peut appliquer les lois de Kepler, les lois de Newton, qui vous disent que quelque chose qui tourne avec une certaine vitesse sur un cercle ou une ellipse de dimension donnée, eh bien, si elle tourne, c'est que c'est attiré par quelque chose dont on peut mesurer la masse. C'est comme ça que, en plus, on ne voit rien. Donc, il y a quelque chose qui attire, sinon ça ne tournerait pas, et on peut mesurer la masse. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, déterminé la masse du trou noir. Très, très jolie expérience. Vraiment magnifique expérience à tous les points de vue. Au point de vue conceptuel, au point de vue de la technique et de l'obstination, et de la mise en œuvre, parce que ça se fait pas avec, il n'y a pas qu'une personne qui fait ça. Il y a des équipes, voilà. Ça a été fait par une équipe allemande, en l'occurrence. Mais NACO est une équipe, est une expérience, c'est un imageur, donc, qui a été aussi développé à Grenoble. Voilà. L'univers en accélération, je vous ai dit, là, si on regarde l'univers, on s'aperçoit de rien, on ne voit que des étoiles, mais quand on mesure les étoiles les plus, les galaxies les plus lointaines, et bien de temps en temps, dans une galaxie, ça ce sont des galaxies très très lointaines, dans une galaxie, on voit quelque chose qui apparaît, qui n'était pas là avant, dans l'image précédente, c'est une supernova. Les supernovas sont des choses rares, mais quand il y a des milliards d'étoiles, dans chaque galaxie que vous voyez ici, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc, il suffit d'en observer beaucoup. On a évidemment toutes les chances d'observer de temps en temps une étoile qui explose, une supernova. Et vous voyez que si on la suit au cours du temps, eh bien, on voit... Alors, déjà, là, on a la distance. C'est que c'est une supernova. On mesure son spectre. Et c'est comme ça qu'on a su qu'elle était... on a sa luminosité absolue. La luminosité apparente permet de situer à quelle distance elle est, et ça ne correspond pas vraiment à la distance, à la mesure que l'on obtient à partir du spectre. Et en plus, on peut regarder d'autres choses. On peut ainsi mesurer donc, l'évolution de la courbe de lumière et s'apercevoir, eh bien, se conforter l'idée que c'est bien une supernova. La nature de la supernova est importante pour calculer sa vraie luminosité compte tenu de sa distance. Voilà, c'est comme ça qu'on a mesuré l'ensemble de l'accélération. Deuxième point important, ça a été l'image d'une exoplanète. Alors, la première, vous savez, exoplanète a été découverte par un tout petit télescope. Ça, c'est l'ironie et la beauté des ambitions scientifiques, c'est des projets scientifiques. Ce n'est pas toujours les gros instruments qui font les découvertes. Ce n'est pas toujours les expériences les plus dotées financièrement, avec le plus de moyens, qui font les plus belles découvertes. Non, pas forcément. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter à la poubelle les grands instruments, bien sûr, au contraire. Mais il ne faut surtout pas oublier les petits instruments parce qu'on y fait autre chose. Et là, ça a été découvert à l'Observatoire de Haute-Provence, un télescope de 1,93 m, par une équipe suisse, qui a découvert la première exoplanète en 1995. Dès lors, comme les champignons, quand on en trouve un, on en trouve tout le reste, on continue à en trouver. En 2004, par cette méthode et par une autre méthode, en 2004, on en avait déjà 120. Aujourd'hui, il y en a 700, peut-être même 750. J'ai des collègues qui travaillent dans le même couloir que moi. Il faudrait que j'aille tous les jours leur demander. Mais on a un carton qui montre que le nombre d'exoplanètes, donc ça devient banal finalement. Mais ce qui est moins banal, c'est de réaliser l'image. Pourquoi ? Parce que si vous avez Vénus qui passe à côté du Soleil, ben on imagine bien que de très loin, c'est difficile de faire l'image de Vénus parce que vous avez la lumière du Soleil qui est des millions de fois bien supérieure à celle de Vénus. Donc ça pose des problèmes compliqués. Et pourtant, une première image a été obtenue à l'ESO. Bien, justement, c'est cette image-là. Ce que vous avez, alors, c'était dans un catalogue, vous voyez, voilà le nom du candidat. C'était ce qu'on appelle un survol infrarouge, tout masse. C'était fait au Massachusetts, enfin, c'était l'équipe. Ça, c'est les coordonnées, en réalité, hein, moins 39, c'était à moins 39 degrés de latitude. Et c'est ça, cet objet-là, qui constitue la première exoplanète connue. En réalité, on a discuté cela ensuite parce que cette étoile, ça c'est l'étoile autour duquel l'exoplanète est censée tourner. Sauf que si vous regardez là, le petit diagramme ici, c'est une comparaison entre notre propre système solaire. Vous voyez que là, on a Jupiter. Je n'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est ça. Oui, on a Jupiter, donc on montre même pas les étoiles et les planètes telluriques, hein, la Terre et Vénus, etc. Donc Jupiter, là, le Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et ce système-là, si je compare, voilà l'étoile qui est là, serait ici, si on la place à la place du Soleil, et voilà le candidat, hein, la planète qui est là, que je mets à la même échelle. Alors en réalité, vous voyez que là, il y a une conspiration généreuse, parce que là, il se trouve que cette étoile-là n'est pas une vraie étoile. En réalité, c'est une fausse étoile, c'est une naine brune, ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire qu'il y a c'est à peu près 5 fois, 25 fois la masse de Jupiter. Donc 25 fois la masse de Jupiter, c'est pas assez pour que un astre devienne une étoile. Hein, donc c'est une naine brune, donc c'est un peu de la triche, mais c'est pour ça que ça brille pas beaucoup. Et donc le contraste en luminosité est favorable, permet d'observer et d'imager cet objet-là, qui, lui, en revanche, est un bel objet. C'est-à-dire que c'est une belle planète qui fait 5 fois la masse de Jupiter. Voilà. Donc c'est pour ça que cette planète qui est là, c'est une planète géante, 5 fois la masse de Jupiter, et qui est beaucoup plus loin que notre Jupiter à nous, vous voyez, mais qui tourne autour d'une étoile qui est 25 fois la masse de Jupiter. Mais qui, bon, alors pourquoi ça brille? Parce que l'énergie thermique de ces astres-là, qui n'est pas suffisant pour déclencher les réactions nucléaires, mais suffisant pour donner de la lumière, infrarouge seulement. D'ailleurs, le bleu est un bleu trompeur. Hein. C'est en fait de la lumière infrarouge qui a permis de détecter ces deux astres. Voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même la même équipe, une équipe de Grenoble, Anne-Marie Lagrange, vous avez dû voir, qui a vraiment observé pour de bon cette fois la première exoplanète autour du système Bétapic. Je ne sais pas si c'était un des grands... Une équipe autour d'Alfred Vidal-Majard a beaucoup travaillé sur ce système-là. Voilà, là j'ai illustré quelques grands résultats. J'aurais pu parler du quasar et de la température cosmique, mais sûrement je ferai venir notre ami Patrick Petitjean. Ce serait une idée, ça, pour clore peut-être l'année 2012-2013. Alors, tout ça, c'est pas fait en un jour. Et comme je vous disais, dans les années 30, même 40, 50, les gens se sont dit quand même que la situation européenne est tellement terrible. Toute l'astronomie, ben, finalement, on l'a laissée outre-Atlantique. C'est pas la guerre qui est en cause. Hein. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale qui nous a laissés sur le flanc. Enfin, un peu, mais pas seulement, parce que la radioastronomie, par exemple, s'est développée après la guerre en Europe. Très, très bien, même. Pour des raisons évidentes, hein, puisque les radars ont été développés, évidemment, pendant la guerre. Donc, ça a permis l'essor de la radioastronomie, qui avait commencé avant, mais ça a permis ça. Non, c'est parce qu'en optique, on n'était pas assez solide pour le faire, et les Américains avaient donc ces grands télescopes, en particulier le télescope de Palomar, mais d'autres également. Et donc, les gens réfléchissent, et en 1953, un groupe d'astronomes, dont celui qui est au milieu, qui s'appelle Jan Oort, celui qui a vraiment compris la structure de la Voie lactée en radioastronomie, ils se sont dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et il y a eu, ils ont invité, à l'initiative de Jan Oort et d'autres, il y a eu une conférence à Leyde, en Hollande, pour décider des mesures à prendre pour se doter de moyens observationnels suffisamment conséquents. La conclusion, voilà, il n'y a pas de tâche plus urgente. Il faut parler longtemps pour arriver à trouver une phrase comme ça, mais c'est pas rien. Et en 62, une convention est signée entre la France, la Belgique, oui, je cherchais tout à l'heure, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Voilà, ce sont les 5 pays fondateurs. Ça s'est fait vraiment très, très bien, d'une manière très intelligente. Il n'a pas fallu discuter comme nos politiques le font aujourd'hui pour essayer de voir à quoi doit ressembler l'Europe. Là, non, ça a été évident tout de suite. Il faut trouver, vous voyez, les signataires, c'est essentiellement des gens d'observatoire de Paris. Il y a Couder, par exemple, Danjon, qui a été directeur d'observatoire. Jan Oort, dont j'ai parlé tout à l'heure, signe donc cette convention. Et donc 54, hein, la déclaration d'intention, 1962, la convention, et ça c'est le papier que vous avez vu tout à l'heure, ça s'est fait au CERN, hein, ces premières cogitations, et en 1976, le 3,60 m. Donc là, entre 62 et 76, on commence à avoir les premiers instruments, c'est la CIA, hein, bon, que je vous ai montré tout à l'heure, tout culmine en 1976 à la CIA. Alors après, il y a eu un deuxième temps. Ben évidemment, on pouvait dire qu'en 76, on rattrapait le temps perdu, mais vous voyez le temps, hein, parce que le 5 mètres du Mont Palomar date des années 40, après-guerre, ils ont été retardés par la guerre, mais ils avaient déjà le fameux télescope de 2,50 m du Mont Wilson, qui était à Pasadena, qui avait permis à Hubble de découvrir la fuite des galaxies, donc l'expansion de l'univers, c'est quand même pas rien, la composition chimique des étoiles, énormément de choses quand même qui avaient été obtenues grâce à ces télescopes géants de 2,50 m. Ensuite, en 1949, le 5 mètres de Palomar, et nous, il faut attendre 1976 pour avoir un télescope de la classe des 5 mètres, 4 mètres, quoi, 4-5 mètres. En Russie aussi, hein, il y a Zelenchuk qui fait 6 mètres, qui date de ces années-là, mais qui n'a jamais été très performant, pas aussi performant que le Palomar. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, après, il va falloir se poser des questions, et on se dit, comment aller plus loin? Comment faire un télescope plus grand? Faut-il, d'ailleurs, faire un télescope plus grand? Pendant très longtemps, les gens se sont dit qu'il n'était pas possible de faire des télescopes d'une taille supérieure aux 4 mètres, tout simplement parce que, vous verrez, d'ailleurs, les miroirs étaient extrêmement épais, 40-50 cm d'épaisseur pour 4 mètres, ou 5 mètres de diamètre. Même en les alvéolant, qui était en faisant des alvéoles, vous savez, en creusant un petit peu, ce n'est pas du miroir plein, ça permettait de minimiser le poids tout en conservant une structure rigide, hein, il y a deux choses contradictoires, eh bien, on savait qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus que 5 mètres. Alors, on s'est focalisé sur les détecteurs. Amélioration de la sensibilité des plaques, irruption ce qu'on a appelé le comptage de photons, c'est l'électronique qui a travaillé. Et puis après, quand on a réalisé tout ça, surtout avec l'invention des CCD, ça se date à peu près des années 80, les CCD, vous savez, ce que vous utilisez dans vos caméscopes. Là, on avait des rendements qui étaient à peu près de l'ordre de 90%. Donc, on ne pouvait pas inventer de la lumière alors qu'on la détectait à 90%. Maintenant, il fallait retourner à la taille des télescopes. Donc, on s'est posé des questions sur la taille des télescopes. Et là, on a trouvé une nouvelle technologie, c'est le NTT, qui a été fait à l'ESO, peut-être, et au même moment, les Américains pensaient à d'autres options. Et ça a été une deuxième étape qui a conduit, donc, grâce à ce télescope qui était un télescope pilote, hein, de 3,50 m de diamètre, mais avec une technologie complètement différente, eh bien, ça a permis de tester ça pour aller ensuite au VLT. Mais le VLT apparaît en 1998. Vous voyez le temps qu'il a fallu, 20 ans. Pour passer d'un 3,60 m à un télescope d'une autre génération, fait 8 mètres. Voilà. Et voilà là. Et maintenant, eh bien, on va. À partir de là, quand on a eu 98, on s'est dit, mais on va faire aussi. On a besoin de complémenter tout ce qui est en optique par l'infrarouge et par le submillimétrique, donc ALMA. Voilà les trois grandes périodes qu'on peut résumer de cette façon-là. Les cinq pays n'ont pas été seuls. Hein, voilà les pays qu'on rejoint peu à peu. Danemark, Suisse, Italie, Portugal, vous voyez, et ça s'accélère. La Grande-Bretagne, qui, après avoir longuement critiqué l'ESO, a quand même rejoint l'ESO en 2002. J'aime bien les Anglais, ils sont formidables. On s'aime beaucoup, mais on n'arrête pas de se critiquer. Voilà, il n'y a pas qu'en astronomie, vous remarquerez. Alors, pourquoi l'ESO dans le sud? Pourquoi pas dans le nord? Bien, il suffit de regarder cette image. L'intérêt majeur de l'ESO se trouve là. Vous avez deux galaxies ici, celle-là et celle-là. Là, c'est ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, et là, le petit nuage de Magellan, ce sont des galaxies que les marins de Magellan, dit-on, prenaient pour des nuages au début. Ils se sont rendus compte que ces nuages étaient toujours là, donc ils ont soupçonné quelque chose, ils les ont appelés comme cela. Ce sont de véritables galaxies, qui sont des galaxies satellites de notre Voie lactée dans laquelle le Soleil se trouve. Et la Voie lactée a un centre, et ce centre-là, que vous voyez ici, qui est pratiquement invisible, ce que l'on voit, en fait, c'est pas grand-chose. On croit voir le centre, mais on voit dans la direction du centre. Il faut être en infrarouge pour voir le centre. Eh bien, ce centre galactique ne se voit pas depuis l'hémisphère nord. Il est situé à moins 60 et quelques degrés au-dessous de l'équateur. Donc, on ne peut le voir que depuis l'hémisphère sud, le Chili. Et évidemment, étudier cela, c'est important pour comprendre la formation des voies lactées, la voie lactée, la formation des galaxies. C'était tout à fait capital. Voilà. Donc, d'où cette décision. Voilà, l'autre idée, c'est que ben, malgré tout, il n'y a pas tellement d'endroits entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On voit bien que c'est quand même plus facile de s'installer dans l'hémisphère sud, trouver un site dépourvu de lumière parasite, que dans l'hémisphère nord, à moins d'aller en Sibérie, mais c'était la guerre froide à l'époque, il n'était pas question d'aller là-bas, puis même, ce n'est pas nécessairement un meilleur site. Donc voilà pourquoi on a choisi. Alors on pouvait aller aussi en Australie, et on pouvait également aller en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ça a été fait. Il y a eu des équipes qui ont été recherchées, des sites. En Australie, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas encore de lien organique avec eux. L'Afrique du Sud a été considérée aussi, mais rejetée parce qu'on n'était pas dans des climats aussi propices, aussi parce que le climat politique avait un rôle à l'époque. En 1962, souvenez-vous, c'était l'apartheid. Et ça gênait certains de s'installer dans un pays qu'on jugeait instable politiquement. On trouvait que Chili était beaucoup plus stable. Bon, 1962. Voilà. Comme les choses sont compliquées. Et ça a pris 20 ans. Alors, ça a d'ailleurs beaucoup surpris nos Anglais, savoir comment ça allait s'organiser. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu, sonder des sites, établir un code institutionnel. C'est très compliqué. Vous avez un Anglais qui travaille, un Allemand qui travaille avec un Français, qui travaille avec un Hollandais. Ils ont des règles sociales différentes. Ils ont des façons d'être, ils ne mangent pas pareil, ils ne parlent pas la même langue, ils ont des droits différents. Donc tout ça, il faut harmoniser. Donc c'est vrai pour tout cadre international, vous me direz, mais il a fallu faire ça. On n'était pas habitués. Hein. Trouver un financement, c'est-à-dire convaincre les États de le faire, choisir le site, ça c'est vrai. Et ensuite, le site, comme il n'était pas en Europe, il faut donc se mettre d'accord, et se mettre d'accord avec le Chili. Tous les pays l'ont fait. Hein. Les États-Unis aussi ont été obligés de faire ça. Et ensuite, atteindre ce consensus, et ça a pris pas mal d'années. Hein. D'abord, il y a eu d'abord en 70 un accord avec le CERN. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas d'endroit ou de, comment dirais-je, un headquarter de, j'ai dit tout à l'heure, pardon, de quartier général. Merci. Il fallait un quartier général en Europe. Il a été au début un petit peu à Hambourg, mais personne n'aimait trop ça. Et le CERN nous a hébergés pendant quelques années. Et là, il y a eu un centre scientifique. C'est d'ailleurs, ça a été la volonté d'un des directeurs influents de l'ESO, qui a dit, moi, j'accepte de devenir directeur, mais j'ai quelques conditions à poser. En particulier, je souhaite, c'est Ludovic Volcher qui a dit ça, je souhaite qu'il y ait aussi en Europe, au bénéfice des astronomes européens, un centre scientifique où tous les astronomes européens, même ceux qui ne vont pas au Chili, pourront se retrouver, discuter des projets, fabriquer de nouveaux instruments, et puis de là, accueillir des étudiants, et puis de là, aller au Chili, observer, revenir, etc. Donc il y a eu, évidemment, il fallait construire quelque chose. Ça a d'abord été fait au CERN qui nous a prêté des bâtiments, un peu provisoires, et en 80... Eh bien, en 80, pendant ce temps-là, parce que les Allemands ont donné du terrain, eh bien, le headquarter, le quartier général définitif, a été installé à Garching, près de Munich. C'est un endroit aussi très stimulant, puisqu'il est à côté, il y a le fameux Max Planck. Alors, vous voyez, ça, c'est c'est du point de vue administratif. Mais la recherche de sites, vous voyez comment ça se passe. Hein, voilà. Non, on n'est pas en Corse. On est au Chili. Les gens se promènent avec des instruments tout à fait rudimentaires, mais pas tant que ça, et on observe il faut tout regarder. Comment avoir l'eau, comment faire monter l'électricité, comment faire venir les voitures, les équipements, c'est pas simple. Hein. Mais surtout la qualité du site. Faire une statistique sur plusieurs semaines, regarder la qualité des images. Vous pouvez très bien être cette montagne qui est derrière là, elle peut très bien créer une turbulence qui affecte la qualité des images. Bon, voilà. Donc tout ça, pourquoi finalement le Chili a été choisi ? Eh bien, ça se voit très bien sur cette image satellite. Cette image satellite qui a été prise par, je ne me souviens plus par qui. Je ne sais pas, c'est pas Hubble, je crois que c'est ISS ou avant. On voit très bien ce qui se passe. D'un côté, vous avez l'océan, mais c'est un océan froid, c'est le courant de Humboldt, donc pas d'évaporation, donc ça maintient. Ça maintient l'humidité au niveau des océans. Les nuages ne s'envolent pas, hein, restent là. On voit d'ailleurs, depuis l'observatoire, on voit très très bien ce qui se passe. Hein. On voit souvent les nuages au-dessous de nous. On les voit et ils restent là. Et de l'autre côté, vous avez la cordillère des Andes, là, hein, qui bloque toutes les perturbations en provenance de l'Atlantique. Donc vous avez cette région entre les deux, là, une température parfaite. Voilà. Donc il y a un autre élément, c'est que les vents soufflent en majorité depuis le Pacifique, et les vents soufflent vers la Terre, mais sur des centaines de kilomètres, sans avoir un seul obstacle. Donc c'est un courant laminaire, c'est pas du tout un courant turbulent. Donc ça aussi, ça ajoute à la qualité des images. Voilà, là, on a commencé à construire un peu le camp de base. Et puis, on a commencé les observations. Et c'était les observations, moi, que j'ai connues, hein, parce que je suis, voilà, ça fait 30 ans maintenant que j'ai fait des observations. J'ai commencé comme ce monsieur, là, que j'ai connu. Ça, c'était en 1972-13. Eh bien, on était dans les coupoles, on observait, on guidait, on faisait du guidage à l'œil. Et puis, voilà, on coupait les plaques dans l'obscurité, on chargeait les plaques, les spectros, et puis on était dans la coupole. Peut-être maintenant, il y a que des astronomes amateurs qui font ça dans certaines coupoles. Nous, on ne le fait plus, hein, c'est fini. Eh bien, c'était l'époque héroïque, les premières périodes. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé ma thèse avec ce télescope-là, le 1 mètre de l'ESO, c'était 1 mètre de diamètre. Et tout ce que je vous dis, je me souviens très très bien de cette atmosphère extraordinaire. On avait les instruments qui étaient donc placés ici, là. Là, c'était au casse-grain, ça, c'est le chercheur. Là, vous avez l'oculaire où vous pouviez suivre. Et puis, voilà, c'était un télescope de 1 mètre. Il n'y avait pas d'autre chose. Il y avait un télescope de 1 mètre 50 qui était la réplique d'un télescope de même taille que l'on trouve encore à l'Observatoire de Haute-Provence. C'était le petit frère. Hein. La France avait donné ça. Et ensuite, le télescope de 3 mètres 60, en 1976 seulement, je me souviens, j'étais moi à Genève à l'époque, puisqu'il nous avait accueillis là. Et ça a été un grand moment aussi de l'histoire. Les premiers mois, d'ailleurs, on faisait que de la plaque photographique. Hein, il n'y avait que ça. Après, les instruments sont venus. Voilà. La mer est au fond, là. On la voit pas, mais elle est derrière. Et derrière nous, derrière cette image, vous avez les Andes. Voilà. Vous voyez déjà ce que va être ce miroir. Hein. C'est un gros miroir. Il est épais. Il va être là. C'est un gros télescope, c'est lourd, c'est un dôme gigantesque, c'est très, très impressionnant, mais ça reste modeste. Donc pendant très longtemps, c'est l'instrumentation qui va permettre d'accroître les performances jusqu'à ce qu'on se dise non, il faut aller ailleurs. Là, il y a une conférence à Genève, je me souviens très bien de cette conférence, 1977, on commence à imaginer les autres télescopes. Et une nouvelle génération, et on commence à parler d'une génération de 10 mètres. Alors, de 10 mètres de diamètre. Alors, il va falloir une dizaine d'années pour arriver à faire ce nouveau télescope de nouvelle génération. C'est possible, ça devient possible. Pourquoi ? Parce qu'on a l'informatique qui permet de faire un peu, de mettre le télescope où on veut et de ne pas avoir une monture qui suit de manière naturelle les astres, mais quelque chose qu'on... Grâce au calcul, on peut faire suivre un télescope avec des trajectoires très compliquées. Il y a ça. Il y a aussi l'éruption de l'optique active. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de s'affranchir de la... Non, ça, c'est l'optique adaptative. On est capable, pense-t-on, de corriger les déformations d'un miroir grâce à des actuateurs, à des senseurs qui vont sentir la position du miroir et la corriger par l'informatique. Donc on aura toujours, quelle que soit la position du télescope, on aura toujours la surface nominale requise pour faire les observations. Et c'est ce qui va permettre de faire des miroirs fins. De ne pas demander que les miroirs soient rigides. On va tolérer ça. Ça, c'est vraiment la révolution. Et c'est justement parce que la puissance de calcul va nous permettre de faire ça. C'est ce qu'on appelle l'optique active. Ça sera vraiment... Alors l'optique adaptative, c'est autre chose. C'est pour s'affranchir de la turbulence atmosphérique. Et tout ça, l'amélioration des dômes, les gens ont vraiment réfléchi, ça c'est l'impulsion des Français. Les Français, surtout à Hawaï, se sont intéressés à ces problèmes de turbulence, de qualité d'image. C'est très curieux pour des astronomes, les astronomes négligeaient cet aspect-là. Et oui, et c'est dans les années 75 que vraiment on commence à y réfléchir sérieusement. Donc le projet se démarre en 77 et bon, il y a des nouveaux membres et la première lumière du NTT, ça s'appelle le New Technology Telescope. Voilà, c'est décidé en 80 à peu près. Et voilà le télescope en 89 seulement. Mais ça a été une réussite prodigieuse, parce que tout a fonctionné. Le miroir est très mince, hein, il fait que, avant vous aviez des miroirs de 40 cm, 50 cm d'épaisseur, celui-là va faire que quinzaine de centimètres d'épaisseur, pas plus, hein, et puis on va corriger le miroir. Et ça marche merveilleusement. 3,50 m seulement. Mais c'était. On n'est pas dans les 10 mètres, mais il a fallu tester toutes ces innovations techniques sur. C'est pour ça qu'il s'appelle NTT, New Technology Telescope, parce que toutes ces innovations technologiques, il fallait les tester avant de s'embarquer à faire des miroirs de 10 mètres ou de 8 mètres 20. Des miroirs uniques, en plus. C'était vraiment le défi. Voilà le télescope, il est là, le NTT, là. Le dôme est différent, tout est différent. Et donc, on est toujours à la CIA. Et voyez, d'ailleurs, le résultat. Un télescope de Schmidt donne une image comme ça. Un télescope de 3,60 m donne une image comme ceci. Et le NTT donne ça, sans traitement. Vous voyez la différence dans les mêmes conditions d'observation. Donc là, vous arrivez à avoir quelque chose qui est mieux que la seconde d'arc. Et même avec du traitement, on arrive à mieux voir que ces condensations-là sont en fait des étoiles groupées et qu'on arrive à séparer. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on a le VLT corrigé. Et on fait ensuite l'optique adaptative. Là, c'est encore une autre chose. Déjà, on a des télescopes qui sont. Les miroirs sont propres, mais en plus, on va corriger de la turbulence atmosphérique, même au 3,60 m. Grâce à un système qui permet de voir quelle est l'évolution du front d'onde, l'évolution de l'atmosphère. On corrige, c'est-à-dire qu'on déforme avec un petit miroir additionnel pour compenser exactement la déformation de la couche atmosphérique. Ça s'appelle l'optique adaptative. Voilà une image non corrigée à gauche, une image corrigée à droite. Donc on voit qu'on avait deux étoiles et là on peut mesurer effectivement leur distance. Vous avez une seconde d'arc. Voilà d'autres images. À gauche, vous avez... Oui, à gauche, vous avez l'image de Hubble. Et à droite, le même champ vu au sol. On fait presque mieux. Pas toujours, il faut des conditions pour y arriver, mais quand même, c'est très intéressant. Parce que on fait mieux, pourquoi ? Parce que le télescope de Hubble fait 2,40 m, celui-là fait 3,50 m. Alors ensuite, on va s'installer donc ce projet Mury, de faire des télescopes de 16 mètres, comme je vous l'ai dit. On va s'installer à Paranal. Le Chili donne du terrain, et il faudra également plus de 10 ans pour arriver à mener le projet à bien. Là, c'est complètement différent. On intègre les instruments au télescope. Il va falloir considérer autrement la façon d'observer. C'est-à-dire qu'au lieu de donner à chaque astronome des nuits, 3 nuits, 2 nuits, 10 nuits, il va faire le voyage, il va observer, puis peut-être qu'il ne fait pas beau, il repart sans rien. On va programmer les programmes autrement, c'est-à-dire qu'on va découper les observations en fonction de l'opportunité. Il y a quelqu'un, un astronome sur place, pratiquement toujours le même, qui va regarder à un moment précis quel est le programme qu'il faut, qu'il est le plus judicieux d'adapter en fonction des nuits et des conditions. Donc c'est toujours à peu près le même instrument, donc ça permet de changer moins souvent les instruments, etc. Donc c'est vraiment un changement organisationnel fondamental. Alors, il y a un prix à payer, hein, il y a moins de poésie, on se déplace moins. La plupart du temps, on fait des demandes qui sont effectuées sans la présence de l'astronome. Mais voilà. Par contre, pour l'efficacité, c'est autre chose. Et il y a aussi un aspect différent, nouveau, c'est la coopération industrielle à grande échelle. Plus question de fabriquer des instruments dans nos laboratoires. Autrefois, c'est ce que l'on faisait. On avait toujours dans les observatoires des ateliers d'optique, des ateliers d'informatique. Et quand un astronome avait l'idée de faire un spectrographe, eh bien, il allait voir tous les ingénieurs et discuter avec eux. Et puis on faisait l'instrument sur place. On collaborait avec 2 ou 3 instituts. Là, non. Là, on fait venir des industriels qui viennent de l'extérieur et qui ont la maîtrise des fibres optiques, d'autres de l'électronique, etc. Donc il y a une collaboration. On lance des appels d'offres extrêmement importants. Voilà. Ça prendra du temps. Vous voyez, alors là aussi, on réfléchit à plusieurs concepts, 4 télescopes les uns derrière les autres, alignés ou placés comme ça. On voulait faire l'interférométrie, ça c'était la volonté de la France. On teste les sites, on teste la surface. Alors l'idée, c'est de dire, on fait un télescope de 8 mètres 20, un miroir de 8 mètres 20, et il va être fin. Donc il va se déformer, forcément. Un miroir de 8 mètres 20 qui a une épaisseur de 18 cm, parce que c'est son épaisseur, un miroir de 18 cm d'épaisseur que vous balancez comme ça vers la droite ou vers la gauche ou devant ou derrière, il ne va pas rester insensible aux déformations. Au contraire, il va se déformer fortement. Donc il faut corriger ces déformations. Et donc même jeu que pour le NTT, mais là, à grande échelle. Et donc vous voyez tous les petits points blancs que vous voyez sur le miroir, là, ce sont les positions où on va placer des actuateurs qui vont mesurer les déformations et les corriger. Ça s'appelle l'optique active. C'est grâce à cela que le projet a été réalisé et a été viable. Et c'est l'Areosque, il y a eu une usine qui a été construite pas loin de Paris pour polir ce miroir. Voilà l'endroit qu'on nous a prêté. Il y a eu une grosse histoire dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux parce que la famille... Cette colline appartenait à une famille qui tout d'un coup a revendiqué, a dit mais c'est à nous, on ne va pas le donner comme ça. Et donc il y a eu du coup les journaux chiliens sont emparés de l'affaire. On dit mais qu'est-ce que c'est que ces Européens qui colonisent notre terre? Quel est le retour? Enfin bon, ça a été un imbroglio très complexe. On a même pensé que le projet ne se ferait pas. Il a fallu beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, ça a pris pas mal de temps et finalement ça a été résolu pour le bien de tous, et même les Chiliens sont ravis que cette issue ait été positive, mais ça montre à quel point il faut faire très attention lorsqu'on est dans des... Et la même chose s'est produite. Enfin, il y a eu d'autres histoires comme ça. Il y a eu le Mont Graham avec une secte, une religion, je ne sais plus quelle secte, voulait interdire l'occupation de ce site. Il y a eu le Hawaï aussi, où vous avez eu des gens qui se sont élevés contre l'installation des télescopes sur le sommet sacré du Mauna Kea. Donc c'est toujours un peu compliqué, même pour l'astronomie. Donc voilà ce lieu. On le voit là. Il a fallu décapiter la montagne pour arriver à avoir quelque chose de plat. Le site est là, les quatre télescopes. Voilà un des géants, hein, un des 8 mètres que vous voyez dans sa monture. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté... Non, il n'y a personne là sur cette photo, mais enfin, on voit à peu près... Si, il y a quelqu'un là? Oui, là, voilà. C'est quelqu'un? Non. Enfin, vous voyez à peu près l'échelle, j'espère. On voit les escaliers, hein, donc on voit les portes. Le miroir est situé ici. C'est vrai que c'est très impressionnant, je vous assure, ça l'est. Et pourtant, on n'observe pas là. On ne peut pas, parce que la température doit être constante, aucune perturbation humaine. Donc, tous les signaux sont envoyés dans une autre salle, c'est là. Vous voyez que ça change par rapport à ce que j'ai montré avant. Vous avez des consoles, différentes consoles, en fonction des instruments qui sont là, c'est intégré. Hein. Les instruments ne changent pas, ils sont toujours au même endroit, on ne les enlève pas comme autrefois on le faisait. Autrefois, on installait un instrument, puis après on mettait autre chose, un autre spectro, un photomètre. Là, les instruments sont en permanence installés, refroidis, stables, donc d'où l'accroissement de la précision scientifique. Mais voilà, donc c'est une nuit. Et les autres télescopes ne sont pas arrêtés pour autant. Je vous ai dit, le 3,60 m, lui, est équipé. La CIA, évidemment, la CIA, tous les télescopes que je vous ai montrés ne sont plus en fonction aujourd'hui. Hein, il a bien fallu économiser quand même un peu d'argent. Mais c'est un instrument qui permet d'observer des exoplanètes et d'en découvrir tous les jours. Il y a eu d'autres télescopes qui se sont installés, bon, je ne vais pas insister. Et on continue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers ALMA, mais ça je ne vais pas trop insister parce que je vais laisser la place à d'autres intervenants qui vont vous expliquer comment ça se passe. Mais regardez où on en est aujourd'hui, hein, on a déjà pas mal avancé. Ça a été un chantier terrible, hein. Imaginez tous les camions, qui vont installer des... tout en préservant le site quand même, hein. Le site est beau, je trouve. Voilà les télescopes en service, ils vont tous regarder. Il y a d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de l'ESO, eso.org, www.eso.org, vous trouverez une vidéo splendide où on voit tous ces télescopes en train de regarder, c'est en accéléré. Donc on les voit tous ensemble en train de danser, regarder les différentes... On voit la Voie lactée se lever, descendre. C'est tout à fait fabuleux. Voilà. Alors, c'est très actif, cette communauté. Vous voyez, par exemple, vous avez régulièrement des demandes qui sont évidemment examinées. En 2011, il y a eu presque 1000 demandes qui nourrissent tous ces télescopes. Ça correspond donc à une communauté de plusieurs milliers d'astronomes, parce qu'une demande, il y a plusieurs astronomes qui sont associés à cette demande. Donc ça nourrit quand même une communauté scientifique très très importante, évidemment essentiellement européenne. Et vous ne serez pas étonné de savoir que les grands projets, c'est l'étude des premières Terres, l'étude des premières galaxies. Après tout, pourquoi sommes-nous là? Comment la Voie lactée est-elle née? Et du point de vue de la cosmologie, là, j'ai pris les trois thèmes qui sont en ordre de distance. Les premières Terres, la vie, existe-t-elle? Ça fait partie des grands projets. Les galaxies, comment sont-elles apparues? Les structures. Et puis, encore plus loin, que devient l'univers? Pourquoi il est en expansion? Et on pense même être capable de détecter directement l'expansion. Ça, je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Alors, pour faire ça, il faut encore rêver. Vous avez donc ALMA, qui est en service donc l'année prochaine, dans son expression la plus complète. Mais on pense aussi, du côté de l'optique, aux grands télescopes, les très très grands cette fois, non pas de la taille des 8 mètres, mais la taille des 40 mètres. Et l'ESO a ce projet de fabriquer, pour les années 2020, merci, un télescope de 39 mètres de diamètre. Alors pour cela, le Chili a donné un terrain, vous voyez, pas très loin de Paranal, qui s'appelle Armazones. C'est pas très très loin, on est en train de l'équiper déjà, c'est démarré. Voilà quel sera ce télescope une fois terminé, vous voyez, c'est absolument gigantesque. Parce que là, ce sera un seul télescope, c'est pas comme dans l'autre. L'autre, vous aviez quatre télescopes de 8,20 m, ce qui fait à peu près l'équivalent d'un 16 mètres. Là, ça va être un seul télescope de 39 mètres. Mais la grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir un seul miroir fin de 8,20 m, on peut pas faire un miroir fin de 40 mètres, c'est pas possible. Il faudrait le rouler quand même. On ne peut pas rouler. Donc, c'est ce qu'on fait. On va paver des miroirs hexagonaux sur une surface correspondant à un diamètre de 39 mètres. Ça veut dire qu'il va falloir faire à peu près 2000 miroirs de, je ne sais plus la taille, je crois que c'est 1,20 m, quelque chose comme ça, hexagonaux. Et donc, il va falloir en produire un par jour pendant quelques années. Vous voyez là ce que ça veut dire au point de vue technologique. Et voilà. C'est vraiment un défi extraordinaire. C'est pas seulement celui-là. Et voilà, pour comparer, comparer avec les pyramides qui seront pas là. C'est juste pour comparer. Le coût, c'est 1 milliard d'euros. Alors, je vous rappelle que le budget militaire des États-Unis, c'est à peu près ça, mais par jour. Donc voilà, c'est pour mettre en perspective. Donc c'est vrai que c'est cher quand même. Mais c'est pas, voilà, ça dure 20 ans, et ça au moins, et ça nourrit autrement. La construction commencera en principe en 2014, si tout va bien, si les gouvernements nous permettent, si la crise nous permette, s'il n'y a pas de tremblement de terre, etc. Vous savez, pour le VLT qui a 4 télescopes, nous avions un ministre qui, pour des raisons budgétaires, a décidé du jour au lendemain que la France ne financerait plus le quatrième. Il a dit, après tout, pourquoi 4 télescopes? Qu'est-ce que c'est que ces astronomes? Parce que les ministres ne sont pas forcément astronomes, vous avez peut-être remarqué. Donc c'est un ministre de la Recherche, quand même. Et il avait dit, non, 3 suffiront, nous ne donnerons plus l'argent, nous ne financerons pas le quatrième. Bon, il avait oublié que nous étions dans un traité international, qu'on ne peut pas se dédire du jour au lendemain de la parole donnée. Et puis, tout calcul fait, on s'était rendu compte que finalement, payer un 4 mètres, enfin, en faire 3 coûterait autant qu'en faire 4, parce qu'il aurait fallu évidemment dédommager tous les industriels, parce que quand vous rompez un contrat, il y a des dédommagements, etc. Donc finalement, c'était complètement ridicule. Et donc M. Allègre a été vite remis finalement au pas, et finalement tout ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé. Mais ça nous crée des soucis, et il faut quand même qu'on tienne notre rang. Et on a eu du mal, on a eu des remarques, nos partenaires étrangers ne comprenaient pas que tout d'un coup, il y ait cette rumeur, c'est évidemment très rapidement, comme toutes les rumeurs, répandue. Voilà, donc construction en 2014 en principe. On commencera, on devrait avoir, oui, je vais aller vite, puisque je suis déjà 10 minutes en retard, donc en 2024 normalement. Première lumière décembre 2023, donc j'espère qu'on en reparlera. et 2024, opération normale. Voilà, voilà le télescope. Ça, on a déjà la route. Voilà, là, ça va se faire comme ça. On commence. Ça, c'est pas fait. Hein. Ça, c'est pas vrai. Là, oui, ça, oui. Là, ensuite, ça fera ça. Après, ça fera ça. Après, ça fera ça. Voilà. Et là, voilà. Vous rendez compte? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magique. Je vais arrêter là-dessus. Regardez. Vous prenez le spectre d'une galaxie lointaine. Vous avez le tracé rouge. Mais comme l'univers est en expansion, d'accord, votre galaxie, elle va s'en aller. Elle va fuir. Donc son spectre va être décalé vers le rouge. Si vous refaites le même spectre 10 ans plus tard, eh bien, vous aurez le même, mais légèrement décalé vers la partie rouge du spectre, c'est-à-dire ici vers la partie droite. Hein. Là, le bleu est ici, la partie rouge est là. Donc on va être capable de mesurer directement, sur des intervalles de temps quand même pas négligeables, une dizaine d'années, on pourra mesurer directement l'expansion de l'univers. Ça sera génial. Ouais. Voilà, alors j'ai dit, ce n'était pas si facile que ça, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est les... Ça n'a pas été toujours simple hein, de discuter. On avait des fois des problèmes budgétaires, vous voyez, on serait arrivé avec la moitié d'un miroir. Au niveau personnel et nationalité, vous voyez, ça se répartit comme ça. La France, l'Allemagne sont quand même les gros. Hein, Italie, les autres. Voilà. 14%, donc 14%, ça veut dire que c'est notre contribution au budget. Hein, voilà. Voilà, et donc c'était très important. Wolcher, qui a été un homme très influent parmi les directeurs, a dit que si tout a fonctionné, c'est parce qu'il y avait la sensibilité, la résolution angulaire, la couverture en longueur d'onde, et puis la réduction des coûts, parce qu'il a été possible de réduire les coûts, sinon on ne pouvait pas réaliser des télescopes comme le Paranal et peut-être plus tard le 39. Voilà, et je vous conseille le livre de Madsen. Il a écrit un livre qui raconte toute cette histoire, et c'est en anglais malheureusement, mais pour ceux qui peuvent lire l'anglais, il y a eu des choses importantes. En particulier, ce sont des aventures humaines. Vous vous rendez compte que pour le VLT, il a fallu 2000 personnes pendant 10 ans, de tous les pays, à peu près. Hein, c'était vraiment des aventures internationales. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Voilà, si vous avez quelques petites questions, je ne vais pas en prendre beaucoup parce que je ne suis pas aussi bien placé que celui qui aurait parlé à ma place pour le faire. J'ai bien connu les eaux quand même parce que j'ai travaillé depuis 1973, même en étant ici, et tous les astronomes européens, sauf les théoriciens bien sûr et encore, eh bien ont un lien particulier avec les eaux, c'est notre observatoire. Et le Chili, d'une certaine manière, j'ai vécu comme mon second pays. Hein. J'y suis allé plus d'une vingtaine de fois, quand même.
Oui, je vais poser une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas le temps de répondre, mais comment se situent ces très grands systèmes par rapport à l'observation spatiale ? Herschel et les suivants éventuellement.
Ah, c'est toujours complémentaire. Hein. Le spatial et le sol sont complémentaires. Pour l'instant, on ne sera pas capable, peut-être pas demain, de placer en orbite l'équivalent d'un télescope de 39 mètres de diamètre, ni même de 8 mètres de diamètre. On va essayer de le faire avec le James Webb, mais ce n'est pas fait. Et pour l'instant, et de toute façon... L'opération est beaucoup plus coûteuse, c'est un sans commune mesure. La durée de vie n'est pas la même et les instruments ne sont pas les mêmes non plus parce que vous ne pouvez pas d'abord les changer aussi facilement. On l'a fait pour le télescope de Hubble, mais ça n'a rien à voir du point de vue opérationnel. Et très souvent, les deux sont complémentaires. Très souvent, on détecte des choses avec certains télescopes comme le Hubble et on peut les suivre. Avec des télescopes au sol, parce que si on n'a pas besoin de la même finesse, si on peut le suivre, parce qu'on a des télescopes qui sont beaucoup plus performants au niveau du diamètre de la surface collectrice. Donc ce sont vraiment des domaines complémentaires. La radioastronomie, évidemment, ne peut se faire que pour l'instant encore qu'au sol également. Alors Herschel, alors il y a évidemment ce qui est indispensable pour le spatial, ce sont les longueurs d'onde qui ne qui nous sont interdites depuis le sol, parce que l'ultraviolet, évidemment, on ne peut l'atteindre que depuis l'espace, l'infrarouge lointain également. C'est pour ça que Herschel est justifié. On ne peut pas faire Herschel ici, au sol. Pratiquement, c'est impossible. Sensibilité qui est des millions de fois supérieure.
Ici, les hexagones du EELT, ils seront tous égaux, de même fabrication, de même taille,
ou tous les différents? Les hexagones, oui, à peu près, mais ils ne sont pas tous égaux, parce
ils
que
ne peuvent
si
pas
vous avez
être...
un, non, vous avez une parabole,
oui, il y a une courbure.
Le milieu n'a pas la même courbure, c'est pour ça que c'est complexe. Voilà, plus de questions, je vous ai épuisé. Vous voyez, c'était quand même une belle aventure d'aller là-bas. Par exemple, aller à Paranal, il pleut une fois tous les deux ans ou trois ans. Il a fallu construire un endroit pour se reposer dans la journée, hein, complètement à l'abri. C'est là qu'on a tourné le film Quantum of Solace, parce que c'est à l'abri, c'est dans un endroit où c'est climatisé, avec de l'humidité. Sinon, quand on sort, au bout de deux, trois jours, on est mal. Hein, les muqueuses sont atteintes, enfin, c'est complexe, c'est compliqué. D'une manière opérationnelle, c'est vrai que c'est même un petit peu oppressant parfois, parce que ça devient une méga structure. C'est ce qu'on peut reprocher. Quand j'ai connu les eaux au début, vous avez vu les premières observations, c'était très familial. On allait faire des observations avec les instruments qu'on testait, et puis on perdait 3-4 nuits. Mais il m'est arrivé de perdre 10 nuits d'affilée, de revenir, d'avoir fait tout le voyage, de revenir sans rien. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. D'abord parce qu'on n'y va pas forcément. Donc éventuellement, s'il y a une panne, tant pis, c'est l'observateur qui était sur place, mais qui habite là-bas, qui a fait l'observation, et puis il ne l'a pas faite, et puis on vous reprogramme après. Vous vous rendez compte, aller là-bas, tester un instrument. Et la philosophie a changé, parce qu'on essaye de se mettre à peu près aux mêmes normes que pour les expériences spatiales, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a la qualité tout de suite est testée au niveau du laboratoire, avant même d'envoyer l'instrument. Pratiquement, quand on envoie l'instrument, souvent c'est fabriqué dans les laboratoires européens, ensuite il faut les embarquer par bateau, ils sont testés. Ils sont tellement bien testés que, évidemment, il y a un test ultime qui est de le placer au télescope, mais en pratique, ça se passe bien. L'instrument marche presque tout de suite. Toutefois, ce n'était pas le cas du tout. Il fallait souvent faire plusieurs expériences. C'était pareil, d'ailleurs, pour Hawaï. Hein.
Oui, merci pour toutes ces belles vues-là. Pour l'histoire de l'astronomie en France et en Europe, on peut citer le livre de Fehrenbach,
qui
explique bien la mise en place de ces grands organismes et surtout de la fabrication des télescopes dans les années 30, 40, 50, et puis l'implication industrielle qui a suivi.
Bien sûr, il fallait deux ans pour fabriquer un télescope un miroir de 2 mètres. Maintenant, il va falloir une journée. Et le changement. Et puis, autrefois, on avait, par exemple, les fameuses caméras électroniques de l'Allemand qui ont été développées ici à l'observatoire. Mais le nombre de pannes qu'il y avait, c'était compliqué. Il fallait résoudre le problème de la soudure vert métal. C'était complexe, on n'y arrivait pas. Il y avait les photocathodes se cassaient. Il fallait faire, je me souviens d'un nombre incroyable de nuits perdues. Dès qu'on a développé des grands projets, eh bien, on a fait venir les industriels, et là, en mettant des moyens, eh bien, les solutions ont été trouvées. Donc là, c'est la collaboration avec les industriels qui a changé la donne énormément. On a eu un directeur de l'ESO qui était assez tyrannique, mais très, très efficace, très visionnaire, qui s'appelait Giaconi, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs de physique il n'y a pas très longtemps, pour sa contribution dans l'astronomie X. Et d'abord, c'est lui qui a lancé, qui a fait se développer l'astronomie X. Hein, donc ça, qui dit astronomie X dit spatiale, parce qu'il faut envoyer des instruments évidemment spatialisés. On ne peut pas observer le ciel en astronomie X depuis le sol. Les rayons X sont bloqués, heureusement, pour nous, hein, pour notre santé. Donc il faut... c'est spatial. Donc il avait hérité de cette... expérience du spatial qui est très exigeante. Vous ne pouvez pas aller pas facilement. Hubble, c'est le seul exemple. D'ailleurs, Hubble a été là pour valider l'existence de la navette spatiale. Sinon, on n'aurait jamais su comment faire de cette pauvre navette. La navette a été surtout utile pour aller réparer Hubble. Bon. Mais la plupart du temps, quand vous lancez une expérience spatiale, si ça ne marche pas, c'est extrêmement compliqué. Personne ne va aller corriger les choses. Hein. Donc voilà, donc ça, c'était pour lui, cette philosophie, c'était ça doit marcher. Très exigeant. Et c'est lui qui a, pour beaucoup, hein, contribué à changer la philosophie et de l'observation et de la mise en œuvre de ce type de projet. Voilà.
J'aimerais savoir comment ça se passe pour faire une demande d'observation. En fait, est-ce qu'il y a des comités ? Est-ce
Alors, il y a des comités. On est tous, d'ailleurs, à un moment ou à un autre de notre carrière, on fait tous partie de ces comités, mais ça tourne. Ce sont des comités qui sont, par exemple, pour les eaux, vous avez des sous-comités qui examinent les demandes qui sont faites, c'est deux fois par an, à une date précise. Ce sont des soumissions électroniques, des formulaires qui sont téléchargés. Et ensuite, on explique, alors il y a toujours pareil, des formulaires à remplir de manière très besogneuse. Vous avez des DVD là qui sont intéressants, si vous voulez. Hein. Il y a eu deux livres. Il y a eu Europe to the Stars, c'est un livre, mais aussi un DVD. Et puis vous avez ici tous les renseignements pour le cycle de conférences, mais je vous rappelle qu'il y a quand même le site de l'IAP. Oui, alors pour en venir à mes préoccupations là. Donc, deux fois par an pour les eaux, on fait des demandes, on explique ce que l'on veut faire, les résultats qu'on a déjà obtenus, la problématique, pourquoi on veut utiliser un instrument plutôt qu'un autre, quels sont les temps de pause, quels sont les astres, les étoiles ou les galaxies qu'on veut observer, combien de temps on demande, pourquoi on demande ce temps-là, pourquoi plus, pourquoi pas plus, quelles sont la capacité que l'on a ensuite d'analyser les données, est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on a des outils pour le faire, quels sont, voilà, on est presque obligé de donner résultats avant d'avoir observé, mais ça c'est parce que on veut être sûr, les comités veulent être sûrs, évidemment qu'on n'utilise pas les instruments n'importe comment pour faire n'importe quoi, il y a une grosse demande, il y a à peu près 10 fois plus de demandes, entre 5 et 10 fois plus de demandes, 10 fois plus de nuits demandées que de nuits disponibles, si vous voulez, donc il y a une grosse pression. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de pression, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser cet instrument. Voilà. Et donc, vous avez un comité qui se réunit, plusieurs comités, parce que vous avez le comité planète, le comité étoile, étoile chaude, étoile froide, comité cosmologie, même parfois plusieurs. La même chose pour le télescope Hubble, la même chose pour tous les télescopes du monde entier. C'est pas propre à l'ESO. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie.
Merci.
Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et voilà. Rendez-vous le 8 janvier.